Vous écoutez
RMC.
RMC. Comme je dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement.
Il faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes.
C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, on est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten. Et attention, là, on a de la qualité qui arrive, qui vient renforcer l'équipe de l'After. Laure Lepailleur nous rejoint. Laure, bonsoir.
Bonsoir à tous et bonne année.
Oui, c'est la première fois que tu es là en 2020,
Lyon. Oui, beaucoup de Premières Ligues ces derniers temps.
Ah oui, c'est vrai.
Est-ce que tu t'es régalé?
Ouais.
T'as vu des bons matchs?
Ouais, il y a eu des choses.
Est-ce que t'as hurlé après le VAR?
Oui. Voilà. Ah non, j'en peux plus, moi, tous les week-ends, j'en peux plus. Ah non,
mais là. T'as basculé?
Ah ouais, non, mais là, c'est contre le foot. Moi, j'en veux plus toutes ces actions.
On va en parler avec nos experts, en l'occurrence, arbitrage. Bruno Derrien, bien sûr, qui est l'arbitre des grandes soirées de Coupe d'Europe sur RMC Sport. Salut, Bruno.
Bonsoir, Gilbert. Bonsoir à tous.
Alors, Bruno, avant qu'on parle de deux cas très précis, on va redire un mot vite fait, quand même, de l'intervention de Didier Quillot, qui suscite énormément de réactions. Les gars, j'aimerais d'abord qu'on accueille Alexandre au 32-16, qui, lui, veut reparler des fumigènes. Salut, Alexandre.
Bonsoir à tous, bonsoir messieurs.
Moi je trouve. Salut
Alexandre.
Ouais, Alexandre, excuse-moi, juste en préambule, je trouve que si l'intervention de Didier Quillot ne mérite des réactions qu'au niveau des fumigènes.
Ah non, il y en a plein de différentes.
Pas que ça, Daniel. Laisse les gens parler ça, aussi. C'est... Mais s'ils ont envie de parler des fumigènes, il y en a d'autres qui vont parler
mais
d'autres choses.
Exactement.
Voilà, toi t'as pas envie. Mais toi t'as pas envie, laisse les auditeurs en parler.
Mais il est pas responsable de ça, qu'on arrête de le faire chier avec ça.
Ben laisse l'auditeur, tu sais pas ce qu'il va dire.
Mais à chaque fois, c'est les.
À chaque fois, tu dis.
Mais il est pas responsable de ça.
Vous vous énervez en fait.
Pourquoi t'es énervé, Daniel, ce soir?
Oui, Alexandre, vas-y.
Ça m'énerve qu'on.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Les fumigènes dans son jardin, ça va lui faire tout drôle.
Mais moi, j'ai rien contre.
Il n'y a pas de jardin.
Qu'on n'aille pas lui reprocher. La Ligue a fait des pas, mais considérables.
Sur sa terrasse.
Vers les supporters, ils font tout pour arranger ça. Ils bossent et tout. Et les mecs, à chaque fois, ils leur tapent dessus. J'ai bien réfléchi, c'est quand même.
Non, mais là, on a parlé d'un point précis. C'est le barème de sanctions et de ce fameux 8
ans total. Même pas ce qu'il veut dire.
Alexandre, vas-y.
C'est pas lui qui les fait, les sanctions.
En fait, moi, je voulais revenir. Moi, je suis un ancien abonné du Parc des Princes. Et je trouve que voilà les fumigènes dans le stade ça met une certaine ambiance et voilà c'est ce qui permet aux joueurs de se transcender je pense aussi sur la pelouse. Jérôme il pourra
pour toi ça fait partie du spectacle du foot quoi.
Exactement, ça fait partie
mais du spectacle du foot quoi,
comme
hein.
Les tifos comme tout ça.
Oui, il l'a dit.
Il a simplement dit qu'il fallait que ça soit encadré.
Il a pas
dit qu'il était contre.
Ouais, non mais c'est ça, il a donné la chance déjà, il y a eu deux matchs qui ont été encadrés donc ça c'est bien, ça veut dire qu'il a fait le pas. Vers ça. Après, il y a.
Tiens, d'ailleurs, une question que je te vois, Bruno, là. Les arbitres, ils ont des consignes par rapport aux fumigènes?
Ah, bah, clairement. Ils ont arrêté des matchs il n'y a pas longtemps.
Non, mais je veux dire, après, toi, t'es sur le terrain.
Quand il y a la fumée partout,
quand tu vois rien. Mais quand tu vois rien.
Bruno, il y en avait beaucoup.
Tu vois pas de fumigène.
Non, mais il voyait pas grand chose. Tiens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là.
Ça a duré 90 minutes.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce match-là. C'était Auxerre PSG en 2003-2004. D'entrée de jeu, il y a les fumigènes derrière le but du gardien auxerrois. Et l'arbitre Philippe Kahl donne le coup d'envoi alors qu'on voit pas le but. Et sur le coup d'envoi, il y a but pour le PSG.
Je me souviens.
Zouné de cette affaire-là. Alors l'arbitre valide
et on
le but.
En arrière, le but a été
Giroud fait un scandale, rentre sur le terrain, va dans le rang central.
Bien sûr.
Giroud. Et dit à l'arbitre, monsieur l'arbitre, il faut refuser le but parce que mon gardien de but, mes défenseurs n'ont pas vu le ballon.
C'était Fabien Coul.
Et Kahl lui dit ah bon vous croyez ouais. Bon je refuse. Alors Luis Fernandez faisait des bons sur son banc de touche. Vous souvenez pas de ça?
Mais je me souviens.
Et donc voilà, donc les arbitres ont des consignes très claires.
Mais
c'était dingue. Le match avait été, enfin on a refait le coup d'envoi.
Il y avait but d'ailleurs, on l'avait pas vu à la télé, on voyait pas, on avait
personne n'a vu le but, rentré, personne n'a vu le ballon rentré.
Même quoi, imaginez Louis dans cette situation.
Non mais et en plus, et pour la petite histoire, Gilbert, Giroud est revenu sur son banc comme si de rien n'était, alors qu'il est rentré sur le terrain, il était dans le rang central, parler à l'arbitre, il était revenu sur son banc.
Il y avait trop de fumigènes.
Personne ne lui a rien dit. Louis, il était dingue.
Vous savez qu'il y a un passif entre Giroud et Louis qui est exceptionnel. Parce que à l'époque, Louis, entraîneur de Cannes, donc tout jeune entraîneur, arrive à Auxerre et là, Giroud lui fait le fameux coup, pas de chauffage en plein hiver dans le vestiaire, douche froide, le truc. Et là, Louis, les boules, il se dit attends, celui-là au match retour, je vais m'occuper de son cas. Et là, il élabore un stratagème, Louis, il se dit attends, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le banc. On va peindre le banc avec un enduit et comme ça, quand il va s'asseoir, et ben il va rester. Voilà. Donc il s'arrange avec le gars du stade à Cannes, il dit voilà, tu vas aller peindre le truc et tout avant le machin. Et là, le Louis, il est là au bord du terrain. Il attend que Giroud traverse et s'installe, tout content de son effet. Puis là, Giroud s'assied. Puis bah, il se relève, tranquille, quoi. Et là, lui, c'est mec. Et en fait, le mec, c'était gouré de banc, il avait pas le banc des délégués. C'est génial. Bon, Alexandre, allez, pour conclure, donc toi, les fumis, tu veux que ce soit présent au stade, en tout cas. Voilà.
Bien sûr, ça fait partie de l'histoire du foot, ça fait partie de tout ça, les tifos, tout ça, c'est l'ambiance du stade, c'est pour ça qu'on se déplace pour aller au stade. Moi, j'ai encore été au Parc des Princes pour aller voir...
T'imagines, en Espagne, en Angleterre, ils en ont pas, qu'est-ce qu'ils souffrent, hein. Putain, ils voient de la merde toutes les semaines, les matchs pourris qu'ils voient.
Ouais, mais non, mais Daniel,
Daniel, pourquoi tu parles des championnats?
Non, mais
pourquoi
Daniel parle des championnats étrangers? Priorité à Alexandre.
Alors que t'es le premier à dire à Didier Quillot, arrêtez de regarder à l'étranger, il faut regarder en Ligue 1.
Alexandre.
Daniel, regarde, moi j'ai ton livre chez moi, mon histoire du PSG. Toi qui es un grand fan du PSG, tu regrettes pas les PSG Marseille des années 2000, où il y avait de l'ambiance de le stade, où le match c'était électrique, c'était fou. Là, tu regardes un PSG Marseille. Alors oui, après, Paris met une déculottée à l'OM tout le temps. Et regarde, dans le stade, t'as pas d'ambiance. T'as rien.
Bon, après, le monde évolue. Moi, les fumigènes encadrés, je trouve que c'est effectivement une piste qui est tout à fait... acceptable, et puis on verra ce que ça donne à l'usage, quoi. Voilà, et ça permettra d'avoir les fumigènes au stade, en effet. En tout cas, Alexandre, merci pour cette intervention. J'aimerais juste qu'on accueille également Smaïn, qui lui veut revenir sur un autre sujet. C'est le sujet des horaires qui, finalement, en fait, fait réagir beaucoup de monde. Hein. Ouais. D'ailleurs, on me signale sur le hashtag RMC Live que c'est pas du tout la Ligue qui, à la base, a voulu fixer ses matchs à 21h, c'est Canal.
Mais bien sûr,
qui, en fait, avait insisté pour qu'il soit.
Quand on dit c'est quelque chose de culturel. C'est pas vraiment culturel, puisque les horaires des matchs ont beaucoup changé. Ouais. À une époque, beaucoup de matchs se jouaient le samedi à 20h, et puis on avait réfléchi en se disant bon, ben le samedi 20h, peut-être que les gens vont sortir. Donc on a modifié les horaires, on a découpé différemment. Ça se fait toujours.
La grosse affiche a toujours été le soir.
Oui, toujours à 21h.
Oui, non. Ouais.
Ce qui est ou le dimanche soir.
Ce qui est traditionnel, c'est effectivement la grosse affiche en soirée. On n'a pas l'habitude de jouer en diurne en France. Ça, c'est vrai que c'est pas culturel. De là à dire que ça ne marcherait pas ou que ça pourrait pas, je sais pas. Moi, je vois pas pourquoi j'aurais un avis.
Moi, franchement, ça me contrarierait. Moi,
ça te contrarierait.
Ouais, contrarierait.
De quoi que.
Bah, parce que. J'aime bien être tranquille.
Quand le PSG joue à 17h30 ou quand t'as un bon match de l'OM à 17h30.
Non, mais je te parle pas de Lyon, mais sur la grosse affiche du championnat.
Rendez-vous du dimanche soir, t'y tiens, quoi.
Ouais, ou le vendredi soir. À l'époque, c'était le vendredi soir. Souvent, tu vois, le match avancé, c'était le vendredi soir. Ça remonte.
Smaïn, salut Smaïn.
Salut à vous, l'équipe.
Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, moi, sincèrement, bon, je suis d'accord avec Jérôme sur le fait que la fiche du dimanche 21h, elle est importante. Moi, je suis supporter de l'OM, je sais qu'on est souvent habitué à la fiche du dimanche 21h. Mmh. Mais par contre, je pense que pour le foot populaire et pour retrouver vraiment une culture footballistique en France, on peut pas se permettre de mettre des matchs le dimanche après-midi, sachant que le football amateur joue le dimanche après-midi et que les enfants, les U13, les U15, les U17 jouent le dimanche après-midi. Ouais. Franchement, moi je suis éducateur, sincèrement, on ne peut pas nous demander d'aller au stade, sachant que les enfants n'ont qu'une envie, c'est d'aller au stade voir leur équipe. Même, je parle pour la Ligue 2, je pense que la Ligue 2, on voit plus de familles et d'enfants parce que ça joue justement le samedi ou le vendredi, parce que c'est là où les enfants sont dispo. Mais si on fait des matchs le dimanche après-midi, ben on perd ce public-là et malheureusement, on perd des passionnés et des futurs... footballeur parce que non, ça, c'est les vrai,
ça, c'est,
mais
ça c'est un problème qui existe depuis très longtemps. On n'arrive jamais à trouver véritablement le bon créneau par rapport aux pratiquants amateurs. C'est
ben pour moi je crois que ça va,
je crois que d'abord dans le
l'année prochaine ça va redoubler parce qu'il y aura les matchs à 15h le dimanche
le dimanche 15h
samedi après-midi l'année prochaine d'ailleurs c'est pas du samedi
samedi après-midi c'est fin d'après-midi
c'est samedi
l'année prochaine le samedi soir il n'y aura plus qu'un match
c'est ça
voilà et tous les matchs qui étaient le samedi soir on avait ce qu'on appelait
le multiplex
le bloc des matchs pourris
à 15h il y aura donc en fait plusieurs matchs à 15h le dimanche
et des fois il y aura le match le dimanche à 13h aussi, sur quelques journées, le multiplex à 15h, du moins les 5 matchs là, qu'on a ensemble, après un match à 17h et un match le soir, l'affiche à 21h.
Tu as raison, pour conclure. Qui peuvent pas voir, quoi.
Pour moi, je pense que c'est à cause de ça qu'on perd un peu la culture foot en France, parce qu'avant, il y avait. Bon, moi, j'ai pas connu cette époque, mais avant, il y avait les matchs d'ouverture, il y avait ce genre de choses qui faisaient que les jeunes étaient concernés par le football. Et maintenant, je pense qu'on les délaisse totalement au profit des médias pro, de ce genre de choses qui, eux, décident des diffusions des matchs, alors que le premier public, c'est justement le public et pas le reste.
Ouais, merci Spain.
C'est le découpage qui a fait que ça a ramené autant d'argent.
Spain, t'es supporter de l'OM ?
Si ça n'avait pas été découpé comme ça, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant d'argent dans les caisses.
T'es à Marseille ou dans le coin ?
Oui, je suis à Martigues.
Eh ben écoute, on va t'offrir deux places pour OM Angers. C'est dans pas ce week-end, celui d'après. Dimanche 25.
Vous êtes au top. Vous êtes au top.
C'est cadeau, c'est pour toi, Spain. Cadeau de l'after.
Merci beaucoup. Merci. Franchement, on vous écoute tous les jours et continuez comme ça, même si on n'est pas souvent d'accord, c'est ce qui fait vivre le débat.
Ouais. Exactement. Salut Spain, à bientôt dans l'after.
Salut Spain.
Bruno.
Ah oui.
On a deux dossiers.
À nous maintenant.
On est ravis de t'avoir déjà.
Je suis ravi d'être avec nous. Ah ouais, depuis le temps que t'attendais.
Faut savoir que Bruno et Jérôme, c'est une longue histoire.
Déjà sur les terrains, malheureusement. Non, mais je l'ai peu arbitré à Monaco quelques fois. Une fois à Monaco, c'était pas très bien passé. Il m'avait réclamé un pénalty dont lui seul avait vu la faute.
Il était difficile à gérer, non ?
Non, mais jamais. Ah non.
Il était top 5 dans les Casse-Bornes.
Franchement, très respectueux.
Le joueur le plus insupportable que tu aies arbitré dans ta carrière, t'as un souvenir, Bruno ? Le mec, vraiment, à chaque fois que tu le retrouvais.
Alors, écoutez, le match, tu disais, lui, il va me saouler encore.
Il y en avait un, alors qu'il est très sympa dans la vie, selon le cas. C'est Gravelin, Xavier. Oui. que je revois, que j'ai revu avec les Black Stars, que j'arbitre. C'est vrai que sur un terrain, il était forcément très chiant, quoi. Assez pénible à arbitrer, disons les choses. Donc, s'il nous écoute, je le salue. Il le sait, d'ailleurs. Des fois, il était à 30 mètres, 50 mètres d'une action, et il faisait 50 mètres pour venir à l'arbitre qui avait pas faute, quoi. Nous, on était au cœur de l'action, quoi. Ça, c'est pénible pour un arbitre.
Ah, bah oui.
Voilà. Mais sinon, bon,
Tu dois en avoir d'autres. Raconte deux, trois.
T'avais pas un truc avec Olivier Capot?
Ah oui, Olivier Capot, oui, c'était, je connaissais déjà un peu. C'était un Auxerre, Monaco, je crois. Il jouait à Auxerre à l'époque. Et tout le match, il était un peu chiant, quoi. Il m'avait contesté, il me disait t'es pas bon ce soir, t'es pas dans le coup, siffle à côté. Et à un moment donné, le cerveau, le ballon part en corner. Et le ballon ne revient pas, il reste dans la tribune, il revient pas. Et là, il dit tout fort, il me dit à moi et à tous les joueurs qui étaient à la surface, ben c'est mon frère qui est parti avec. Et moi de lui dire devant tout le monde, il y a moins dans la famille qui l'aura touché ce soir. Et là il me regarde. Et puis c'est terminé, je l'ai plus entendu après.
Elle était pas mal,
ça. Mais c'est vrai que cette génération, et c'est pas pour défendre Bruno, mais c'est vrai que vous étiez plusieurs comme ça. Il y avait des échanges. À cette époque-là, il y avait cette génération d'arbitres, il y avait des échanges avec les joueurs. En général, c'était assez sympathique quand même. Tu vois, et pour moi, on pouvait aussi échanger, quoi. Avec oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec les joueurs actuels et les arbitres, c'est plus compliqué. Je crois.
Bah déjà, il faut mettre la main devant la bouche. Sinon, oui. Parce qu'il y a le problème d'haleine dans le foot français. Tu sais, ils sortent tous de la bouche, alors ils mettent la main dans la bouche.
Ça, bon. Ça c'est insupportable. Ça.
Alors, Slimani, premier dossier, il y a deux choses. Premier dossier, il y a du débat qui émerge aujourd'hui sur le but de Slimani. Mmh. Parce qu'en fait, il y a une interprétation de la règle.
Mais c'est toujours arbitré, c'est toujours interprété.
Alors, mais justement, c'est ça qui.
Tu avais la VAR et que c'était fini.
Alors, mais justement, c'est ça qui est très intéressant.
Merde alors.
Non, mais je vais vous lire, parce que c'est quand même la source du débat. Je vais vous lire ce que dit le texte. Le texte dit, donc, là, je prends le cas, donc, rappelez-vous, Marquinhos qui met le pied pour toucher le ballon. Derrière le ballon, on va sur Slimani, qui était donc. Entre Marquinhos et le gardien, et Slimani marque. Bon. Donc, évidemment, on connaît tous la règle. La règle, dans la fantasmagorie générale, c'est si c'est volontaire de la part du défenseur, il n'y a pas en jeu. Mais si c'est involontaire, il y a en jeu. Sauf que non, c'est pas si évident que ça. Le texte dit à l'exclusion d'un ballon ayant fait l'objet d'un sauvetage délibéré par un adversaire. Donc, en gros, s'il y a eu l'intention de Marquinhos de sauver, mais qu'en fait, il s'est raté dans son sauvetage et que ça revient sur Slimani, y a-t-il but ou pas but ? Et là, les arbitres sont pas d'accord entre eux.
Alors le vrai débat, c'est savoir est-ce que c'était un sauvetage ou pas. Marquinhos est à moins 7 mètres du Monégas, donc c'est pas une passe contrée involontairement au dernier moment. Est-ce que Martins qui passe à Slimani, il frappe pas au but ?
Ah si.
Non,
je trouve qu'il rate sa frappe. Il veut passer plutôt à
Slimani ballon. Donc il est pas face au but, il sauve pas le but au dernier moment Marquinhos. C'est comme la règle est ainsi faite, je pense qu'il faut la changer. On est revenu en arrière hein. Moi j'estime que la règle dit que Marquinhos a raté son geste technique, son geste de défenseur et par là même a remis en jeu l'attaquant de Monaco. Voilà, c'est la règle.
Pour toi,
et d'ailleurs, je regardais le match en direct. Alors je crois savoir que l'assistant a levé son drapeau au dernier moment, hein, parce que maintenant vous avez remarqué que les assistants ne lèvent plus leur drapeau sur leur jeu. Même quand il y a des joueurs qui sont hors jeu d'un mètre, il laisse, un sprint laisse de 50 l'attaquant mètres, aller au bout de l'action et en fonction du résultat, s'il y a but, bon, on visionnera à l'image. Et puis s'il n'y a pas but, c'est pas grave, il y aura corner ou coup pied de but. Mais imaginez un seul instant, on laisse un attaquant filer comme ça au but alors qu'il est hors jeu clairement, tout le monde le voit, et qu'il se télescope avec le gardien et qu'il blesse le gardien ou qu'il se blesse. Oui. Bah, cette action aurait pu être interrompue quelques secondes avant si l'arbitre avait sifflé hors jeu. Ça, c'est juste une parenthèse ouais. que j'ouvre. Et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, les arbitres assistants, je sais pourquoi ils servent. Ils ne lèvent plus leur drapeau. Hein.
Ah non, ils prennent plus de risques. Alors là.
Alors maintenant, l'image viendra en aide. Alors voilà ce que je voulais dire. Donc pour moi, alors quand j'ai vu le match en direct et que j'ai vu que l'arbitre était interpellé par l'arbitre vidéo, je me suis dit, avant même, il va valider le but. Il va valider le but. Et c'est ce qu'il a fait.
Bon, donc pour toi,
il a fait.
Ah, mais moi aussi, j'étais sûr qu'il allait le valider.
Sûr et pour moi, il a fait une lecture de la nouvelle règle. Qui dit que quand un défenseur, par un geste technique, est mal maîtrisé, pas réussi, remet en jeu. À partir du moment où Marquinhos n'est pas tout près de l'attaquant de Monaco, il a 7 mètres, c'est pas une passe contrée au dernier moment, c'est pas une passe involontaire.
C'est lui qui
s'est lancé. Ce qui est important, c'est que tout ça reste quand même à l'appréciation de l'arbitre.
Bien sûr.
Donc, une nouvelle fois, appréciation, c'est très important. Voilà, c'est ça qui est dans l'arbitrage au foot, est crucial. Donc, il y a une sorte de zone grise, en fait. Oui. On va mettre peut-être 10 arbitres devant l'image.
Bah, enfin, là, on est quand même plusieurs. J'ai entendu mon collègue Tony Chaperon hier, sur des ondes concurrentes, dire qu'il y avait aussi but. L'arbitre Tony Gauthier.
Joël Kinou aussi a dit.
On est quelques-uns à penser qu'il y avait but.
Pourquoi on en parle et que ça fait débat?
Non, mais c'est vrai que moi j'ai.
Parce que il y a des gens qui reprennent le texte en disant il n'y avait pas but. Voilà. Donc, mais c'est bien d'éclaircir. Parce que, non, mais attends, Daniel, c'est quand même des cas particuliers qui peuvent arriver régulièrement. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que cette zone grise d'interprétation, elle s'ajoute à la zone grise du VAR.
Bien sûr.
Donc là, on élargit le gris quand même.
Bien sûr. Ouais, mais là, c'est assez clair sur cette action-là quand même. Il n'y a pas de débat. Bruno l'a bien expliqué. La distance entre Marquinhos et le tireur, donc Martins, elle est assez grande pour estimer que Marquinhos a le temps de réfléchir, de savoir, c'est pas un con. Il veut contrôler le ballon, il se rate, le ballon repart, il relance le jeu. La règle, elle est très claire.
Prenons un autre cas afin que tout le monde comprenne bien. Le ballon rebondit sur, je sais pas moi, les fesses de Marquinhos, par exemple, ou l'ange de Marquinhos.
Ah bah non, mais là c'est différent.
Voilà, il va vers Slimani.
Là, il est hors jeu.
On est bien d'accord. Non, mais comme ça.
Parce que là, il veut juste contrer le ballon.
Parce que là, Marquinhos, manifestement, il veut jouer le ballon.
Il veut le contrôler,
c'est ça. Il veut l'intercepter, le ballon.
Ah, oui, bien sûr.
Exactement.
Donc, moi, ça me paraît évident. Je ne comprends même pas que ça puisse être contesté.
Bon, clôturons le débat. Deuxième cas. Et après, on va reparler de Tony Chaperon, qui nous a fait, parce qu'on écoute aussi, nous aussi, les autres, nous a fait émissions, qui nous a fait, qui a fait une proposition assez étonnante. On va y venir.
Il apporte à
les hors-jeux. On a parlé avec Didier Quillot tout à l'heure, qui lui défend donc le dispositif actuel. Le hors-jeu qui a fait refuser le but de Koscielny le week-end dernier, qui se joue vraiment. Voilà, on a dit quelques centimètres. Est-ce que tu penses, Bruno, qu'il faut changer peut-être pas le règlement, mais changer en tout cas l'utilisation du VAR sur ce cas-là, pour que quand il y a doute à quelques centimètres près, soit on juge pas avec le VAR, soit on laisse une latitude. Je sais pas quelle pourrait être la solution, mais quel est ton point de vue?
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on juge des joueurs hors jeu à quelques centimètres. C'est un joueur qui est chose du 43 ou du 45, il y a plus de chances d'être pris par la patrouille qu'un gars qui chose du 36 ou du 37, quoi. Et ça, c'est gênant. Je crois qu'il faut faire confiance à l'arbitre à un moment donné, moins longtemps. Enfin, quand il y avait doute, le doute devait favoriser l'attaque et non pas la défense, quoi. Or là, quand ça joue à très peu de choses, je pense qu'on devrait laisser filer à partir du moment où l'arbitre n'avait pas levé son drapeau. Qui plus est aussi.
C'est toujours le problème dans ce genre de débat. Expliquons qu'est-ce que ça donne en pratique. En pratique, là, pour l'instant, on a qu'une action, elle est totalement revisitée.
Oui.
Qu'on utilise une technique très élaborée pour arriver à déterminer s'il y a même à 1 ou 2 centimètres, il y a hors-jeu. Si on dit, comme tu viens de le faire à l'instant, on laisse un peu de latitude et si c'est pas, on va dire, net, on laisse filer. En pratique, comment on fait? C'est-à-dire que les mecs dans le quart, d'abord, on laisse les arbitres sur le terrain juger normalement et à l'ancienne. Et après, comment on fait? Les mecs dans le quart regardent et font « Bon, on est en train de chercher depuis 30 secondes, c'est un peu trop long, donc on laisse tomber. » Ou est-ce que ça doit paraître évident sur quel genre de ralenti? Moi, depuis le début, dans toutes ces discussions sur le VAR, c'est « Qu'est-ce qu'on fait en pratique ?»
Il est dit dans le protocole que l'arbitre vidéo doit intervenir en cas de faute majeur.
Oui, mais ça, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire?
Là, une fois de majeur, c'est un joueur hors jeu de 50 cm, 1 mètre.
Exactement.
Quand c'est de quelques centimètres.
Mais pourquoi ce serait clair à 50 et pas 20? Il est hors jeu aussi à 20.
Encore, faut être sûr de la fiabilité,
oui,
de la technologie
et donc,
qui est employée, notamment de ces révélateurs. C'est ça le vrai problème.
C'est limité.
Mais justement, est-ce que, par rapport à l'assistance vidéo, à un moment donné, tu devrais pas aussi faire évoluer la règle? Moi, franchement, j'ai vu des trucs encore pires que Koscielny en première ligue.
Oui,
et c'est assez catastrophique. Est-ce que, vu que avec l'interprétation de la VAR, c'est difficile, et que tu vois des calculs géométriques en train de se faire pour des quelques centimètres, et ben à un moment donné, souvent, ils savent pas trop entre l'épaule, le pied, quoi qui est devant. Donc est-ce que tu changes pas la règle et tu prends que les pieds, à un moment donné, par exemple, déjà?
Ou alors est-ce que tu laisses tomber? Ou alors est-ce qu'à un moment, tu te dis, tu limites la technologie en disant soit ça apparaît sur un trait net, soit ça apparaît pas, on laisse tomber?
Parce qu'on se pose jamais la question de la grosseur du trait sur l'image, d'ailleurs.
Oui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la réflexion à avoir, c'est comme, est-ce que finalement tu dois pas aussi faire évoluer la règle avec la règle du hors-jeu avec cette
pieds,
assistance.
Toi, tu dis que les pieds.
Bah pourquoi pas.
Ben souvent, oui, mais les pieds,
il y aura aussi un demi centimètre.
Exactement, c'est ce que j'ai à dire. Ça va jouer à ça. Et des fois, c'est un petit orteil.
Développement technologique.
Mais j'ai l'impression que c'est encore plus dur de toucher l'épaule.
Il faut
dans le calcul géométrique que le pied.
Non, c'est pas plus
si
dur.
Si vous voulez revenir à ce qui peut le plus ressembler à l'erreur manifeste, c'est soit le cas clair, la main de Thierry Henry, la main de Maradona. Ça, c'est une erreur manifeste que on pourrait appeler aux yeux de tous. Et pour le hors-jeu, c'est tu limites la technologie. Ça veut dire que tu revois deux ralentis. Parce que souvent, quand il y a eu des gros scandales de hors-jeu, franchement, tu le vois immédiatement. Mais d'accord, quand vraiment c'est net,
oui.
Tu le vois en deux ralentis,
oui, bam,
l'arbitre peut se tromper, bim bim. Donc le mec revoit deux ralentis, il fait « Oh, c'est bon !» Et s'il lui en faut plus de 2-3, laisse tomber, on vous fait confiance.
Moi, je pense qu'il faut faire la limite, c'est-à-dire que
donc il faut limiter la technologie. Pour moi, c'est la seule solution.
Là, et c'est redonner du crédit à l'arbitre, en fait.
Voilà.
Et comme le dit Bruno, et il a raison, aujourd'hui, même ils prennent même plus de risques. Donc ils lèvent plus, même quand il y a un mètre hors jeu.
On a des responsabilités.
Il lève parce qu'il se dit oh j'ai un doute, alors je lève. Donc là ils vont contrôler tout ça.
C'était ma crainte pour les assistants et on le voit tous les week-ends.
Et
avant on pouvait hurler chef de gare. Il n'y a plus de chef de gare.
Maintenant c'est fini. S'ils redeviennent comme avant et qu'ils lèvent, par exemple. Tu lèves.
J'aimais bien l'expression.
En effet, tu décides de pas lever. L'action se déroule. Le mec marque. Et là, tu vas contrôler quand même parce que t'as l'outil, la vidéo. Donc tu vas. Ils en ont pour 2 minutes. Ils regardent et ils se disent bon, il a pas levé. Franchement, il y a peut-être même pas un pied qui est hors jeu. On laisse. C'est bon.
On me rejoint sur une sorte de limite de la
exactement.
Technologie.
Je pense que un pied. Tu peux pas dire Laure
donc
que les pieds.
D'accord,
parce
finalement.
Que tu peux avoir le corps complètement penché.
Ça donne l'impulsion. Voilà.
Tu peux, voilà. Donc tu peux avoir. Mais à moins d'un pied.
Bah donc en fait.
Tu laisses l'avantage.
Tu laisses l'avantage.
Non, mais c'est.
Sauf s'il a levé. Si l'arbitre a levé. Et que, en effet, il y a un demi-pied, mais l'arbitre a pris ses responsabilités, a vu hors-jeu, et ben là, tu dis oui, d'accord, il y a hors-jeu, je confirme.
Donc, je pense que l'anti-VAR et le pro-VAR pourraient se mettre d'accord sur une forme de compromis. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout ça, c'est qu'on a eu plutôt une sorte de dictature du pro-VAR.
Ah oui, non, mais là, oui.
Une dictature de la technologie.
Ouais. Là, oui.
Qui est intervenue pour la main du Croate en finale de Coupe du Monde, sur la main de Kibé. On est arrivé à des aberrations parce que c'est la technologie qui a dit oui ou non, clair, net, sur l'image.
Et
en dehors de tout esprit du sport, même pour leur jeu, tout ça. Alors qu'il suffisait de tenter un compromis et d'essayer de définir ce qu'est une erreur manifeste, et on avait 4 cas dans un match, et pour le reste, l'arbitre était totalement responsable comme avant, alors que là, maintenant, ça n'est plus qu'un robot.
Ouais.
Donc, on pouvait, même nous qui sommes anti-VAR, faire un pas, mais sauf que les pro-VAR n'ont pas voulu faire de pas vers nous. Ils nous l'ont imposé de façon dictatoriale.
Alors là, je vais m'excuser pour ceux qui nous écoutent à la radio, je vais décrire ce qui se passe. Vous avez une image derrière vous qui vient d'un match de ce soir, en Coupe d'Italie, avec l'Inter. Inter Cagliari. Et là, l'arbitre a refusé le but pour un hors-jeu de Lukaku.
Ouais.
Regardez l'image. Alors, évidemment, la radio, c'est un peu compliqué, mais enfin.
C'est un bout d'épaule.
C'est grotesque.
Quoi.
Sauf que tu vois le pied du premier joueur en bas.
Le trait, il est
devant.
Pas bon. Non, mais si. Par rapport à l'autre ligne.
Non, parce que.
C'est pas possible, là. Ouais. Ah non, mais attendez. qui c'est qui a tiré ce trait-là?
Voilà, c'est l'illustration de notre débat. Alors, désolé pour les auditeurs, mais c'est vraiment on voit le trait avec des joueurs blancs de Cagliari, un bras, une main, un pied devant Lukaku. Et refus du but malgré tout.
Mais attends, il faudra un géomètre pour savoir s'il y a.
Remarquez sur cette image, sur toutes les images, on ne nous montre jamais le départ du ballon.
Mais là encore, on s'en fout même du départ du ballon parce que là, si tu prends les pointillés. Et regarde. C'est le bras de Lukaku qui est devant. Donc le bras normalement, il fait pas partie.
Là ils lui ont coupé le bras. Non. On est d'accord.
Mais c'est normalement l'épaule.
Bah oui.
C'est au niveau de l'épaule. Et là je vois pas. Alors l'épaule elle est grande.
Ouais, bah oui. Je dis qu'il aura bien. Hein.
Ouais. Donc voilà. Mais c'est exactement le style qu'on vient de dire. C'est que là sur ces hors-jeux là, franchement, au bout d'un moment, il faut laisser à l'attaque.
En fait, il faut peut-être inventer pour résumer Bruno le concept de hors-jeu flagrant.
C'est-à-dire au bout de combien de centimètres?
Et oui, c'est ça le problème.
Ça le va.
Quoi qu'il en soit, ça a toujours été une règle injugeable. Hein, je disais souvent, il faut avoir un strabisme divergent pour l'arbitre assistant, avoir un œil à la fois sur le ballon et un œil à la fois sur l'avant-dernier défenseur. Et juger au départ, quand le ballon quitte les pieds du défenseur ou la tête du défenseur du partenaire pour son attaquant.
De former des caméléons comme juge de
touche. Donc c'est injugeable. Mais médicalement, c'est prouvé que c'est injugeable.
Hein. Exactement. Tu ne peux pas regarder à trois. Il faut que tu regardes à trois.
Chez l'ophtalmo, parce qu'on est chez l'ophtalmo tous les deux ans faire une visite. Il me dit comment vous faites pour juger l'enjeu.
Bruno, reste avec nous encore quelques minutes. On va parler maintenant de Tony Chaperon.
Bien meilleur,
il a proposé hier sur Canal+, c'est une innovation, le but de pénalité. On va vous expliquer ce qu'il veut faire dans quelques instants. Est-ce que c'est complètement hors sujet ou très intelligent? L'after va se positionner.
Il est chauve, alors il en parle.
Assez clairement dans quelques instants. Messieurs, dames, bougez pas, on met tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, avec Jérôme Rotten, avec Laure Le Payeur et avec Bruno Derrien qui est venu avec nous ce soir. Et on est ravis de t'avoir, Bruno. Il nous a lâché deux petites anecdotes, mais il pourrait te raconter 50. Hein.
Ah ben, c'est une encyclopédie, Bruno. Moi, j'aime bien que l'attaque, c'est... Ses copains arbitres de
l'Europe. Oh, non,
mais ça, c'est après l'émission.
Ah, mais non. Non, mais attends, Bruno, ton bouquin est toujours dispo.
Oui, il est encore en vente. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup parce qu'on l'a pratiquement tous vendu.
Il date il y a 10 ans maintenant.
Ça fait 10 ans, déjà, janvier 2009.
Oui. Voilà.
Il avait écrit un bouquin, Bruno, qui balançait sur le monde des arbitres, quand même.
Michel Vautreau,
il a été à Besançon, il était à la retraite.
Oui. Non, j'ai eu peur à un moment, je me suis dit, attends, que je ne fasse pas une gaffe.
Non.
Tu ne te rappelles pas qu'on l'avait fait un soir dans l'after, Vautreau?
Non, Michel. Il était couché.
Il était chez lui, il est couché, il dit, ah bah, vous m'avez sorti de la laftaline. Il dit, Vautreau.
Ah oui, il a toujours le bon mot, Michel Vautreau, le sens de l'humour.
Bon alors.
Il est toujours à Besançon?
Oui. À Besançon.
Dans le doute, tu t'abstiens, hein, tu sais bien.
Dans l'émission de nos confrères de Canal, le Late Football Club, Tony Chaperon a commenté de façon assez étonnante.
Mythique.
La fameuse faute du joueur du Real, Valverde, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc rappelez-vous, le joueur, pour ceux qui ont raté ça, un joueur de l'Atlético Morata par seul au but, Valverde l'attrape par derrière, dernier défenseur, logiquement, carton rouge. Voilà. Derrière, le Real, au tir au but, remporte la Supercoupe d'Espagne. Et donc Tony Chaperon dit, bah, écoutez, qu'est-ce qu'on voit? Que finalement, le fauteur de trouble, l'homme qui fait la faute, le coupable, finalement, eh bien, profite du résultat. C'est ça, profite à l'agresseur, en quelque sorte, puisque le Real a gagné ce match. Bon, on pourrait prendre le cas de Ghana et Uruguay à la Coupe du Monde, par exemple. Pareil, la main de Suarez.
Attends,
je finis. Et donc, Chaperon dit, du coup, moi, je propose un but par pénalité. Puisque au final, c'est le Real qui a profité de la situation.
Je suis toujours très étonné de tous ces gens qui veulent retirer au football la dimension humaine.
Mais Daniel, arrête. Et on n'est pas complètement con quand même. Ou vous êtes plus con que je le pense. Mais franchement, toi, tu t'en parles et toi, tu réagis comme ça. Mais Chaperon, il fait ça pour qu'on parle de lui. Mais en aucun cas, il pense ça.
Je ne sais pas. En tout cas, moi.
Pourquoi tu veux que je doute qu'il pense, pense ça? C'est marrant, lui. Il le pense. Moi, je veux répondre.
Nous, on ne subodore pas que.
Que l'autre dit ça pour faire parler de lui. Non, lui. Donc, je termine, si tu permets. Il y a exactement le même raisonnement que chez les extrémistes du VAR. Ne pas considérer ce qu'est le foot
dans toute sa dimension, dans son histoire humaine, qui fait que les histoires qui ont et qui fait que ce sport est universel et a autant marqué les gens et qu'on a écrit autant de livres dessus, qu'autant d'intellectuels se soient penchés sur ce sport, c'est qu'il a une dimension humaine, qu'il y a des bons, des méchants, des garces, des salopes, des mecs odieux dont on se souvient toute une vie, des arbitres qui ont déconné grave. D'ailleurs, on en parlera, mais jeudi soir, il y a un doc magnifique qui passera dans Transversal sur les erreurs d'arbitrage qui ont marqué l'histoire de ce jeu. Que tout ça, c'est la dimension du sport qu'on aime et qui fait qu'on en parle 10 ans après. Et si le mec dit qu'on n'a plus le droit de faire le geste ultime de la saloperie, comme a fait Suarez sur Asamoah Gyan, enfin, en l'occurrence, je dis Gyan parce que c'est lui qui, à la fin, tire le péno, et que la dramaturgie de ce match-là, de ce qui s'est passé dans la vie des joueurs.
Oui, c'est Suarez qui fait la faute et Gyan qui tire le péno.
Ouais, qui sont ensuite.
Et qui le ratent.
Mais s'ils sont reconnus dans leur pays, à juste titre, ou pour des bonnes raisons, pour de mauvaises raisons. Si dans le foot, vous êtes des stars qui restaient aussi connus des années après Jérôme, c'est aussi pour tout ça. C'est pour les histoires qui sont au-delà du terrain. Et alors, s'il y a des gens qui veulent gommer cette partie-là, pour moi, c'est des gens qui ne connaissent pas le football. Ben
voilà. Alors, l'avis de Bruno.
Et la philosophie
et l'avis de
Laurent
ensuite, bien
alors,
sûr.
Alors, mon cher Daniel, je ne nie pas, moi, la dimension humaine du foot, comme toi. Mais je pense et je reste persuadé que la fin ne justifie pas tous les moyens dans le sport.
Tant que c'est sur le terrain, qu'il n'y a pas de triche. Ça n'est pas de la triche. La triche, c'est acheter un arbitre.
J'entends bien. Non, mais là, en l'occurrence, alors, on peut être choqué par la faute de Valverde. Et j'espère d'ailleurs qu'il prendra une lourde sanction.
Sans doute, tu vas la prendre.
Oui, ouais, mais lourde, apparemment, pas si lourde que ça, ce qui n'est pas eu de rapport de l'arbitre d'après ce que
j'ai fait. Il a fait une faute intelligente. Il a fait une faute intelligente.
Non, mais je crois quand même, Daniel, on ne peut pas se féliciter de ce genre de faute sur un terrain.
Bah non, parce que.
Je vais aller au terme de mon explication, après vous pourrez répondre. Moi, je pense qu'il faut éviter que la pratique de l'anti-jeu soit érigé en système dans le foot. Pourquoi ? Il y a encore 30 ans en arrière, je me souviens, j'étais jeune arbitre, ce genre d'action, on le voyait, l'arbitre sortait à peine un carton jaune. Et en 90, en Italie, la FIFA a dit stop à l'anti-jeu. Il y avait de moins en moins de buts, de moins en moins de buts, et de plus en plus de fautes d'anti-jeu sur le terrain. Donc on a donné des consignes très claires aux arbitres, c'est là qu'il y a eu la double peine, les tacles par derrière, carton rouge. D'ailleurs, Michel Vautreau, souvenez-vous, on en parlait tout à l'heure, avait arbitré le match inaugural entre l'Argentine et le Cameroun, avait expulsé, si mes souvenirs sont bons, il avait expulsé deux Camerounais lors de ce match-là, il avait donné le ton de l'arbitrage. Donc je pense, moi, que voilà, ce geste de Valverde, certes, il sauve son équipe, on ne saura jamais, parce qu'au final, on ne saura pas, il y aura pu avoir pénalty, le gardien aura pu le foucher à la surface, il y aura pu avoir but ou pas but, ou corner, on ne saura pas. L'histoire, on ne va pas la refaire. Mais on ne peut pas quand même, je dirais, banaliser ce genre de geste sur les terrains. Voilà.
Alors Laure, ton point de vue à toi ?
Bah moi, point de vue de joueuse, je pense que dans le football, il y a des règles. Et bah Valverde, il a joué avec la règle. Effectivement, il a fauché Morata. Il a été sanctionné pour ce geste. Mais je vois pas pourquoi il y a une polémique autour de ça. Peut-être parce que c'était une finale et que forcément, ça change peut-être la donne. Mais à un moment donné, moi, je pense que même si ça peut être considéré comme un geste antisportif, moi, je le considérais en tout cas en tant que joueuse comme un geste héroïque pour sauver son équipe. Et ça fait partie du football. Moi, la première, si j'avais dû tacler pour empêcher l'attaquant d'y aller, je l'aurais fait. Alors après, on verra la sanction qu'il va avoir. Mais on revient une année en arrière. L'année dernière, quand à ma vie, il tacle ou nous qui part au but, enfin, on n'a pas fait un scandale, on n'a pas dit on va changer la règle ou quoi que ce soit. Tu joues juste simplement avec la règle qui est mise en place. L'attaquant, il part. Voilà, à un moment donné, je pense que c'est le football, c'est les
sanctions. La phrase qui est juste dans ce que tu dis.
Un geste héroïque, Laure.
Non, non, mais Laure a raison. C'est là où sa phrase qui est la plus importante, c'est tu joues avec les règles qui sont à ta disposition.
On parle de faute intelligente quand tu joues. Voilà. Et ben moi, je trouve que Valverde a fait une faute intelligente.
Non, mais de toute façon. Et Suarez avait également eu un geste complètement dingue. Mais
qui a emmené l'Uruguay
instinctif
en
qu'il est en
de Suarez, on s'en souvient, il était encore sur le bord de la touche, il n'avait pas quitté le terrain, il n'était pas encore en. Il exulte quand son gardien arrête. Le penalty, tu te souviens de cette image? Enfin, c'est terrible pour les Ghanéens, quand même.
Mais évidemment que c'est terrible. Mais les Ghanéens,
c'est une forme de football, avec naïf. Le foot, il est fait de ce genre
de douleur, de joie. On est le seul sport qui propose autant de sentiments contrastés.
J'entends bien.
Et même Simeone, il a dit bravo, j'aurais aimé qu'un de mes joueurs. Ah,
surtout lui.
S'imagine que lui, il était venu donner des sons de
morale. Il a dit bien joué.
Évidemment.
On va conclure avec Anthony. Anthony, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, bonjour, messieurs, dames. Alors déjà, juste par rapport à Monsieur Derrien, je suis content de l'avoir et se remémorer un petit peu les anecdotes avec les joueurs. Alors bon, il y a prescription. Mais moi, Monsieur Derrien, je vous ai détesté en 2005. Et ça a duré longtemps, hein, pendant des mois et des mois et des mois.
Vous êtes bordelais.
Bordeaux-Lyon.
Ah oui, oui.
Ah voilà, oui, il est bordelais, Anthony, ça, ouais.
Ouais, je
voilà,
sais.
Ça c'était un petit clin d'œil, mais voilà.
Bah, on invitera Bruno pour qu'il raconte un jour dans le détail son histoire de Bordeaux-Lyon. C'est une longue histoire, mais on n'a pas le temps.
Ça a été dur à s'en remettre. Hein, du coup,
pour moi aussi, bon, parce que ça a été la fin de ma carrière, cher monsieur.
D'accord, bon, j'en suis désolé pour ça, mais bon, voilà.
Alors, Valverde, tu dis quoi, toi? Geste héroïque comme l'or ou la fin ne justifie pas les moyens?
Non, moi je l'applaudis dès demain, franchement.
Ah bon?
Très honnêtement, alors Chaperon, il dit ce qu'il veut. Je pense que Tony Chaperon, il est plus intéressant quand il tacle les joueurs que quand il parle un peu de football.
Bon, il est pas là pour se défendre, on parle
de football. Non, mais il a le droit d'avoir un avis. Après,
l'objectif n'est pas de parler de Tony Chaperon.
Non, mais complètement, ouais. Mais à un moment même donné, il faut arrêter de vouloir dénaturer le football comme on est en train de le faire avec la VAR où déjà ça devient n'importe quoi. Et là, maintenant, on veut analyser. Chaque acte qui va être fait, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il fallait pas le faire, est-ce que si c'est pas si c'est pas Real Madrid, Atlético, est-ce qu'on en fait tout un foin, est-ce que si l'Atlético gagne derrière, est-ce qu'on en fait tout un foin. Donc après c'est tout un contexte qui fait que mais c'est ces choses là en fait qu'on va se souvenir peut-être dans 10 ans, 15 ans, on se dira putain, ah ouais, mais tu te rappelles, mais ça c'était le folklore et tout ça. J'ai l'impression qu'en fait on est en train de perdre tout ça. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de place à des moments forts dans le football. Et ça, pour moi, c'est un moment fort. Et Simeone, franchement, j'approuve sa réaction parce qu'il aurait pu l'avoir mauvaise. Mais après, bon, connaissant un petit peu le personnage...
Bon, je pense qu'il l'a mauvaise quand même. Étonné, mais...
valide. Oui, non, mais il l'a mauvaise. Mais, oui. Mais je pense qu'il valide complètement ce qu'a fait le joueur du...
Anthony, merci pour ton avis.
J'aurais fait pareil.
Tu es donc en phase avec Laure Le Payet, en l'occurrence. Bruno, bon bah du coup t'as plein de trucs à raconter, donc tu reviendras.
Hein, avec
un de ces soirs dans l'after, évidemment. Merci d'être venu et de nous avoir éclairé.
Mais merci de votre accueil.
Comment il s'appelait le bouquin? Non, pour ceux qui le cherchent, je veux Amazon, tout ça.
À bas l'arbitre, aux éditions du Rocher.
Voilà. Allez-y, vous avez plein de Bruno de Rendon avec plein d'anecdotes.
L'édition du Rocher, ça n'existe plus, ça, non ?
Si, ça existe encore, je crois. Ouais. Ça a été racheté, je crois.
Dans quelques instants, on va changer complètement d'univers. On va se plonger dans la vie des collectionneurs d'objets de foot, de maillots. Vous allez voir, ça va être passionnant. Vous allez apprendre plein de trucs dans l'after avec Jean-Marc Lenné, qui est un commissaire-priseur qui maîtrise tous ces sujets-là à merveille. C'est tout de suite dans l'after avec vous.
RMC, 21h30. L'after foot, Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec vous. Attention, sujet passionnant. Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo est là, Laure Le Payet est là et Jean-Marc Lenné nous rejoint. Bonsoir.
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 Alors, vous êtes commissaire-priseur ?
Non. Ah. Expert. Le commissaire-priseur, c'est celui qui tape le marteau. L'expert, c'est celui qui.
Mais je croyais que vous faisiez les deux, moi.
Ah non, on peut pas faire les deux. On est ou expert ou commissaire-priseur.
Lui, il va chercher les plus belles. Vous allez chercher les plus belles pièces.
Voilà, alors, moi, autant j'apporte... pour moi, parce que moi, j'ai fait de nombreuses recherches et à chaque fois, je... Bon,
Non. J'apporte les objets pour qu'ils soient vendus par un commissaire-priseur.
Et donc, on va parler des objets de foot, enfin, on pourra parler d'élargir au-delà du foot, mais foot d'abord. Tout est parti d'une vente à laquelle vous avez participé. Il y avait un magnifique catalogue. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Un maillot de Jérôme Bretagne. On se dit, oh, sympa, on va l'emmener à l'after, on va dire, tiens Jérôme, regarde, il y a un maillot à toi qui va être vendu sur une vente aux enchères. Le prix de départ, je me souviens plus.
150.
Exactement. 150. Et là, deux passes plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Oh,
qu'est-ce que c'était comme maillot, on peut savoir?
Maillot non porté, équipe de France 2007, face
à l'île
France-Féroé, en qualification, le championnat d'Europe.
Le côté non porté, t'as pas
joué ce match?
Oui, mais il n'était pas porté parce que les deux autres, je les ai.
Ah, voilà. D'accord.
Bah, les deux maillots, première mi-temps, deuxième mi-temps, en fait, je l'ai.
Ça, c'était quoi, celui qui était dans ton sac?
Un de mes meilleurs
donc,
amis.
Ce qui veut dire que vous ne l'avez pas échangé à la fin du match.
Donc, je ne l'ai pas échangé. Non, en fait, c'est le maillot de rechange. C'est le troisième maillot, en effet, qu'on n'a on a pas. C'est le magasinier qui garde ça. Et au cas où il y en a un qui se déchire, bien sûr, qui te file celui-là.
Et là, deux pas plus loin, on voit un maillot de Taïwo. Oh, même prix que Jérôme Rotten.
De départ.
Oui,
mais là, porté, lui. Hein.
Et là, attention, et puis, parce qu'on a transpiré dans l'after, Jean-Marc, on a des archives. Réaction de Jérôme Rotten à l'époque. Écoutez. Maillot de l'OM de Taïwo, mise en vente 150 balles aussi. Ça veut dire que Jérôme vaut autant que Taïwo.
Quel con. Envie de dégueuler.
Non, mais pas. Franchement,
Jérôme, quand même.
Bah oui, je dégueule, encore. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi.
Alors, le résultat n'a pas été le même.
Ah!
Puisque 600 euros pour le maillot de Jérôme.
Ouais.
Et 150 euros le prix de départ pour le maillot de Taïwo.
D'accord.
Voilà. Bon, voilà le
chacun est resté à sa
voilà place. Le résultat. Tu vois. C'est un business très développé, ça, la vente, revente d'objets de foot.
Mais d'abord, excusez-moi, c'est quoi votre métier finalement?
Alors,
avant d'avoir la valeur, c'est comment on devient ce que vous êtes? C'est formidable, ça, alors, d'aller chercher des objets.
Oui. Alors, c'est 20 ans de travail. Ça fait à peu près 20 ans que je fais ça. Alors, à la base, je travaillais déjà pour le président Nicolas. Déjà, je travaille pour le président depuis 25 ans.
Ah, votre entrée dans ce métier, vous, ça se fait par le biais de Louis-Nicolas?
Ça s'est fait par le hasard. Ça serait un peu trop long dans l'émission à l'expliquer. Ça s'est fait par le hasard, mais j'ai toujours été dans le sport.
Voilà. D'accord.
Donc,
okay.
Mon parcours depuis 40 ans est dans le sport.
Et un jour, vous le rencontrez?
Et c'est pas par lui, c'est par l'opportunité d'achat d'archives pour les anciens qui connaissent Miroir du football.
Oui,
Miroir
bien sûr.
J'ai tout simplement racheté les archives d'édition de ces anciens magazines.
D'accord.
Et suite à ça, j'ai fait appel à un expert pour valoriser. Et cet expert, j'ai repris sa suite, puisqu'il partait à la retraite.
D'accord.
Donc, il m'a proposé de prendre sa suite. Et j'ai accepté, moyennant 5 ans de formation, c'est-à-dire qu'il reste à mes côtés pendant 5 ans, ce qu'il a fait. Et donc, grâce à ça, j'ai pu reprendre son cabinet d'expertise. Et 20 ans après, toujours.
Et vous êtes spécialisé dans les objets de sport ou juste football?
Tous les sports. Jeux olympiques, cyclisme.
Pendant 20 ans, Louis-Nicolas vous dit, trouve-moi les plus beaux.
Plus de 20 ans, oui. Plus de 20 ans. Oui. Depuis, le premier contact avec le président, de mémoire, c'était 1995.
Et là, vous travaillez que pour lui?
Non, le président, c'était vraiment quelque chose de spécial avec lui. Les rapports que j'avais étaient pratiquement pour moi, c'était un père, un deuxième père, et c'était vraiment
très
particulier
parce qu'il voulait tellement, d'objets.
Mais il avait des demandes précises.
Alors, il avait d'une part des demandes précises et surtout une boulimie incroyable. C'est-à-dire, vous avez pu voir le musée, c'est extraordinaire. Et par contre, ce que peu de gens savent, et on peut le dire aujourd'hui, une connaissance incroyable de tous les sports. Tous les sports, essentiellement.
Oui, parce qu'on va voir, quand on va voir la collection de Nicolas.
En tant qu'ancien handballeur, il était passionné de hand, passionné de basket, français, NBA.
Le sport était sa passion.
Le vélo, c'est incroyable,
cyclisme.
La collection.
Le musée du cyclisme chez lui, c'est quelque chose de.
Et alors, il vous envoyait chercher des pièces partout dans le monde.
Voilà.
Et comment on évalue alors finalement la valeur d'une pièce?
Alors, la valeur d'une pièce, les critères à la base sont l'ancienneté et l'histoire qui va avec. Il est bien évident que un maillot de l'équipe de France porté d'un joueur comme Zidane ou de Sailly ou n'a pas la même valeur que le même maillot du même match porté par Lama ou pas porté, etc. Voilà. Donc c'est en fait le côté historique et la personne qui a
l'importance
porté
du match aussi.
L'importance du match, bien sûr, il y a une hiérarchie entre.
Mais comment vous faites? Si vous avez une petite grille? Vous faites
Du monde, c'est un match amical.
Alors aujourd'hui, c'est intégré, mais entre, par exemple, si on prend les maillots de l'équipe de France, puisque je suis aussi consultant pour la Fédération française de football, si on prend, on va avoir le match amical simple, le match de qualification, le match de championnat d'Europe, qualification, le match de championnat d'Europe, qualif Coupe du Monde et Coupe du Monde. Voilà. Tout ça, c'est une hiérarchie. Là-dessus, les joueurs ont leur importance. Et s'ils ont joué ou pas joué.
Ouais. Mais après, il peut y avoir des histoires particulières parce que, prenons le cas, je sais pas pourquoi je pensais à ça comme ça, mais il y a peut-être des mecs qui ont joué 20 matchs en équipe de France dont le maillot va coûter moins cher que la seule sélection de Franck Jurietti ou de Gérard Buchère.
On a d'ailleurs vendu un maillot de Jurietti, de sa seule sélection.
Celui où il rentre les deux minutes à la fin.
Oui. Alors, tout dépend du nom du joueur. Jurietti, c'est pas une grande cote sur le marché.
Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr, mais le fait qu'il ait fait une seule sélection et qu'il soit rentré dans les arrêts de jeu, ça raconte ça pas un truc.
Parce que c'est Jurietti. Voilà. J'ai vendu un maillot de Philippe Mahut, qui a eu 9 sélections, je crois, à peu près.
Début des années 80.
C'est un maillot qui a fait pratiquement le même prix que le maillot de Jérôme, plus moderne. Voilà.
Et pourquoi?
Parce que Philippe Mahut n'est pas une une hiérarchie dans les joueurs.
Il est né à l'Euro 84.
Oui, mais
on va continuer le débat. On a largement le temps de le faire ensemble. Ça va être très sympa. Juste, Jérôme, sur le marché, si tu commandes milieu de gamme, plutôt haut de gamme, plutôt.
Il a été vendu ton maillot par contre contre le Real.
Le match retour, le...
Non, non, j'ai pas vendu le maillot.
Il y a tout, Jérôme.
Tu l'as, ce maillot-là?
Oui, oui, j'ai
le maillot. Et bah, donc, on sait combien il pourrait le vendre, son maillot?
Ah, ça dépasserait les 1000 euros sans problème, oui, 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 sans problème.
Non, mais après, tu peux avoir des belles pièces.
Comme le filet
Mais, non, mais bon, t'as
alors, en fait, après, le prix, il faut comprendre que le prix, dans les ventes qu'on organise, est déterminé par ce que veulent les acheteurs. Puisque pour faire monter un prix, il faut deux acheteurs.
Si c'est le maillot de la finale de la Ligue des Champions, en 2004 avec Monaco, bien sûr que
ça monte. Ça monte.
Alors on va continuer la discussion dans quelques instants.
Le match contre
Real. On a des collectionneurs de maillots qui nous appellent déjà. Je pense qu'évidemment ils vont vouloir des infos ou savoir.
Moi je préfère avoir comment fonctionner ton match contre le Real que la finale que tu as.
On se retrouve dans quelques instants dans l'after avec Jean-Marc, donc expert en objets de football, en revanche. C'est tout de suite dans l'after.
Il est fou lui.
Bah, c'est un prix.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
At the Bank of Santander, they've created Stan, a smart bot that can predict the future of remortgaging.
Harry, it's Stan. Will my mortgage rate go up?
1955 was the last time Newcastle won the cup.
No, and try not to mumble.
Playing, let's get ready to rumble.
Meanwhile, at Santander, they can't predict your future, but they'll help secure it with great mortgage rates fixed for up to 10 years. See what's possible at Santander.
Early repayment charges apply. Lending subject to status and criteria. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.